J'en demande bien pardon à ceux qui nous écoutent, mais notre émission sera un peu triste. Vous vous souvenez tous de Léopoldine Hugo, de sa mort tragique sur la scène, de ces vers que nous avons appris à l'école et dire qu'elle est morte. Et pour moi ici, en cette fin d'après-midi, bien sûr, ces vers qui serrent le cœur et que je ne résiste pas à l'envie de vous citer. Je ne regarderai pas ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Il y a quelque chose de poignant dans ces voiles au loin descendant vers Harfleur, dans le vers de Hugo. Alors il n'y a pas de voile en face de nous maintenant, mais on peut tout à fait imaginer que Hugo les a vus, ou imaginer qu'il les a imaginés en écrivant ce poème consacré à la mort de sa fille. Et on trouve ça poignant parce qu'au fond, les poètes nous touchent quand ils nous font partager les détails de leur vie. Harfleur pour Hugo, la villa Baratier ou la rue au Montierville pour Apollinaire. Mais surtout, quand on lit ce poème, parce qu'on se rend compte que pour parler de ces voiles, et les voiles au loin descendant vers Harfleur, et pour écrire qu'il ne les regarderait plus, Hugo, on le devine, a dû les évoquer un instant, comme en soulevant le voile du chagrin posé sur ce paysage à cause de la mort de sa fille. Et c'est ce mouvement, au fond, qui nous bouleverse et qui nous le rend si proche. Nous sommes donc à Villequier, dans une grande boucle de la Seine, toujours pas de voile au loin descendant vers Harfleur, et le soir tombe sur la statue de Hugo devant nous, une statue qui paraît écouter les ombres, tout inclinée du côté du mystère, comme il l'a écrit. Cette statue est épouvantablement laide et cela n'a aucune importance. Il semble ici, tout autour, dans ce paysage, que la douleur de Hugo et sa blessure ne se soient jamais refermées. Léopoldine était sa fille aînée. Il lui écrivait lorsqu'il voyageait, elle était comme sa muse et davantage. En février 1843, elle épouse Charles Vacry, qui venait d'une famille d'armateurs du Havre, qui avait une maison ici à Villequier. Hugo a eu du mal à accepter le départ de sa fille, et comme on sait, les écrivains exorcisent leurs troubles dans leurs livres, et on retrouve ainsi dans Les Misérables un écho de ces sentiments mélangés quand Jean Valjean découvre l'amour de Cosette pour Marius. Il avait parlé sur le moment, je le cite, du bonheur désolant de marier sa fille. En septembre 1843, donc, Léopoldine et son mari, qui viennent de s'installer au Havre, ils vont passer quelques jours dans leur maison de vacances de Villequier. Charles doit se rendre chez son notaire à Côtebec-en-Caux, juste à côté. On peut y aller par la route, ce que nous venons de faire, ou par le fleuve. Il choisit le fleuve. Ils sont quatre, il y a Charles, le mari, Léopoldine, la femme, l'oncle qui s'appelle Pierre, si je me souviens bien, et puis un neveu âgé de 10 ans. Ils arrivent à Côtebec, Charles va voir son notaire, et quand il faut revenir, le notaire, qui est un cauchois avisé, remarque que le vent s'est levé et que ça serait quand même plus prudent de rentrer en voiture à cheval, et il se propose de les reconduire. La région est plus dangereuse qu'il n'y paraît, le vent de terre se mêle à celui du large, et parfois le courant de l'océan remonte le fleuve dans un puissant mascaret. Il est 1h de l'après-midi, mais Charles préfère revenir en bateau. Ils se sont à peine éloignés de la rive que, à peu près en face de là où nous sommes à présent, un brusque coup de vent fait chavirer l'embarcation en une seule fois. L'oncle et le neveu de Charles se noient presque immédiatement. Charles plonge et replonge pour sauver Léopoldine, qui est gênée par ses jupes et qui est emprisonnée sous la coque. Les paysans sur la berge croient à un jeu. Ils voient Charles sortir, rentrer, plonger. Et pour finir, ni Charles ni Léopoldine ne reparaissent plus. Et ce qu'il y a d'assez tragique, c'est que pendant ce temps, Victor Hugo n'est pas là. Il revient du Pays basque espagnol, où il se promenait en compagnie de Juliette Drouet, qui était sa maîtresse, le soir du drame. Il somnole dans une diligence qui fait route vers Agen. Le 6 septembre, Léopoldine et Charles sont inhumés dans le petit cimetière de Villequier et Hugo n'en sait absolument rien. Dans ce cimetière où nous sommes allés tout à l'heure, il y a aussi la tombe de sa femme, Adèle, et celle de sa dernière fille, l'Adèle H. de Truffaut, incarnée par Adjani. Adèle H. à la destinée tragique et qui mourut en 1915. Le 9 septembre, Victor et Juliette sont donc à Rochefort. Léopoldine est morte depuis déjà 3 jours. Il leur faut attendre 4 heures la diligence pour La Rochelle. Plutôt d'attendre dehors, ils vont au Café de l'Europe, à Rochefort, se font servir de la bière et Hugo demande un journal. On lui apporte Le Siècle et il y lit en première page le récit de la mort de la fille de Victor Hugo. Dans son journal, Juliette Drouet écrit « Je venais de le voir souriant et heureux et en moins d'une seconde, sans transition, je le retrouvais foudroyé, ses pauvres lèvres étaient blanches, ses beaux yeux regardaient sans voir. » Sa main était serrée contre son cœur, comme pour l'empêcher de sortir de sa poitrine. Hugo s'efforce de ne rien laisser paraître. Après tout, il est dans un drôle d'équipage avec une femme qui n'est pas la sienne au moment où sa fille vient de mourir. Le trajet vers Paris lui paraît interminable, il n'y parvient que le 12 septembre. Pendant de longues années, le remords d'avoir laissé Léopoldine est trop grand. Il reste muré dans le silence, il ne peut plus écrire. 10 ans s'écoulent avant la publication des Châtiments, il attendra 3 ans avant de pouvoir écrire à Villequier. Il ne voit plus quoi faire, il s'étourdit de tâches officielles et représente l'Académie à toutes les funérailles, celle de Casimir de Lavigne ou celle de Charles Nodier. Hugo, depuis quelque temps, touche bien des tombeaux, remarque Alfred de Vigny. Et puis vient l'exil, qui l'éloigne pour longtemps de la tombe de sa fille. Quand Adèle, sa femme, meurt, en 1868, il ne peut accompagner son cercueil jusqu'à Villequier, parce que sa femme désirait être enterrée aux côtés de Léopoldine, et doit s'arrêter à la frontière belge. Ces drames dont l'exil est fait, on les oublie trop souvent. Lorsqu'il revient d'exil, après la chute de l'empereur, écrit une de ses biographes, il règne sur une myriade de souvenirs et une tribu de cadavres. Adèle, il s'agit de sa deuxième fille, Adèle étant plus morte que les morts. Il atteindra 1879, puis 1882 pour revenir à Villequier, toujours en septembre, anniversaire du drame, et toujours habité par la même douleur. Et c'est ici aussi à Villequier que s'est terminée l'histoire d'amour entre Apollinaire et Marie Laurencin. Il s'était rencontré chez Sago, le marchand de tableaux, il avait été emmené par Picasso. Et comme lui, c'est une belle histoire d'amour, comme lui, Marie Laurencin était un enfant naturel, la fille d'une domestique et d'un député de Péronne. Elle avait été la petite fille la plus paresseuse du monde. Elle était émue par le silence des églises, le costume des religieuses, le son de l'harmonium. Elle aimait les cheveux des filles et sa mère lui avait dit « Il n'y a que les grands peintres qui savent faire des nattes, tu ne sauras jamais. » Comme quoi on peut rêver à l'infini sur l'instant de la naissance de la vocation. Elle avait connu Braque à l'Académie Imbert et par Braque, elle avait connu l'avant-garde et Henri-Pierre Rocher qui est célèbre aujourd'hui pour Jules et Jim et qui devait devenir son Pygmalion, lui faisant lire Gide et Mallarmé et l'emmenant au ballet. Quand elle commença de voir Apollinaire au milieu du petit groupe de ses amis, Salmon, Max Jacob, Juan Gris, Fernand Léger et Picasso, il lui trouva une grande gaieté, une grande bonté, notant à la fois « c'est un soleil » et « c'est moi en femme ». On ne peut pas dire plus brièvement la naissance de la passion. Les orages vinrent pourtant assez vite. L'artiste tenait la maison du poète, elle en souffrait, elle n'était pas faite pour ça, elle lui reprochait une forme pénible de grossièreté domestique. Elle ne parvenait pas à s'imposer dans les conversations et peut-être est-ce qu'elle ne le voulait pas vraiment. Il vivait dans un tourbillon qu'elle n'aimait pas, il était souvent désinvolte et fuyant. Il disparaissait des journées entières sans dire où il était, il avait d'autres aventures. Leur correspondance est poignante parce qu'elle les montre, protestant chacun de son amour et se cherchant à tâtons. Bien sûr, leur liaison se nimbe à nos yeux de tristesse puisque nous avons lu la fin dans les vers. Tu as souffert de l'amour à 20 et à 30 ans. C'était donc une malédiction dont rien ne délivrerait Guillaume Apollinaire. Ils se séparèrent, mais Guillaume ne parvint pas à l'oublier. Son amie Louise Faure-Favier, qui était une femme exceptionnelle, celle qui lui a fermé les yeux, aviatrice, première femme journaliste professionnelle, eut l'idée de les réconcilier. Et elle organisa un voyage sur les boucles de la Seine, le même exactement que nous venons de faire, Vincent et moi. En août 1913, ils se retrouvèrent tous à Rouen, André Billy, Louise Faure-Favier, Marie Laurencin et Guillaume Apollinaire. Ils venaient de publier « Alcool » et le lui avait offert en écrivant sur la page de garde « Votre voix m'enivre ainsi qu'une eau de vie ». Le petit groupe passa comme nous par Jumièges, par Saint-Vendry, nous sommes allés, et puis arriva à Villequier, là où nous sommes. Apollinaire voulait voir l'endroit où Léopoldine s'était noyée. Ils allèrent au cimetière comme nous, puis dans un caboulot des bords de Seine, où Apollinaire offrit à boire aux pilotes des remorqueurs. Ils voulaient tout savoir de leur voyage, tout savoir de leur métier. La curiosité d'Apollinaire, on le voit quand on lit la série des anecdotiques ou les articles qu'il publiait dans les journaux, la curiosité d'Apollinaire était absolument sans limite. Il était gai, très gai, peut-être pour elle. Il chantait du Béranger, il racontait des histoires. Il riait, dit Billy, je cite, de ce rire profond et musical qui lui gonflait la gorge par secousses et faisait se rejoindre ses sourcils. J'avoue avoir essayé de l'imiter tout à l'heure sans être sûr d'y être parvenu et Vincent m'assure que non. Le charme était pourtant rompu. Louise Faure-Favier prenait des photos et certaines de ces photos sont reproduites dans l'album de la Pléiade qu'on peut voir maintenant. Et ces clichés sont très tristes parce qu'ils montrent l'invisible, c'est-à-dire un amour qui a passé et ne reviendra plus. Ce sont des fils qui ne seront pas renoués et qui paraissent joncher le sol de l'Hôtel de France ou le parvis de l'église d'Yvetot. Ici, sur le bord de la Seine, à Villequier, Marie s'accroche au bras d'Apollinaire, mais comme à cet objet que les marins appellent un corps mort. C'était fini. Ils se quittèrent pour ne plus se revoir, et puis nous est restée la Seine de nos amours qui les emporte vers la mer. Du pont Mirabeau jusqu'au Havre, personne, écrit Guillaume Apollinaire, n'a pris l'habitude d'aimer.